bonsoir à tous, bienvenue au Bistrot des Ethnologues. Pour ceux qui ne connaissent pas cette institution, cette manifestation, je dois vous dire que c'est une association qui existe depuis 20 ans et qui prend plaisir chaque mois à inviter un ethnologue qui vient de publier un ouvrage sur l'ethnologie, sur un thème de l'ethnologie. C'est une association qui a un site internet où vous pouvez télécharger les conférences qui se sont déroulées chaque mois depuis 20 ans cette année, puisque ça fait 20 ans que notre association existe, ce qui est quand même une certaine durée pour une association, vous le reconnaîtrez. Le Bistrot des Ethnologues donc est financé, enfin, ne doit son existence que les financements qui lui sont donnés par des institutions publiques, au premier chef desquels je dois citer la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, mais aussi le Conseil Général, la Ville de Montpellier, et ce soir particulièrement, bien sûr, la communauté de communes qui donc participe à l'organisation et au soutien de cette manifestation. À ce sujet, je dois vous dire que Louis Villaré devait être là ce soir. Je vous prie de l'excuser. Il a été retenu par une réunion de dernière minute. Je voulais aussi ajouter qu'en général, ces conférences sont reliées, diffusées par Divergence FM régulièrement tous les mois. Et qu'en général, nous sommes suivis par un libraire qui s'appelle Libré, qui n'est pas là ce soir. Et vous pouvez trouver chez tout libraire les ouvrages qui, en général, sont présentés par les ethnologues que nous invitons. Alors, je dois vous dire qu'aujourd'hui, nous revenons à Agnan, en fait. Ça veut dire que nous y sommes déjà venus, il y a longtemps, c'était il y a 9-10 ans, avec une ethnologue qui s'appelait Léonore Lequenin, une ethnologue qui aujourd'hui est au CNRS, d'ailleurs. Nous avions été accueillis, pour cette soirée, dans ce même lieu. Je me souviens, il y avait un gradinage qui s'étendait jusqu'au fond, et il y avait une scène, d'ailleurs, qui bien sûr, nous passerait dessus aujourd'hui, mais qui était à 2-3 mètres du sol, et cette personne, cet ethnologue, avait abordé la question des détenus de longue peine à Poissy. C'était là le thème de sa recherche, et elle avait évoqué la vie dans une prison pour des détenus de longue durée. C'est un travail qui était remarquable, et c'était déjà, on avait bien sûr évité cette ethnologue volontairement à Agnan, parce que c'était déjà un clin d'œil à la culture, à la tradition carcérale et d'Agnan et à la fameuse colonie pénitentiaire qui a vécu et qui, d'une certaine manière, est encore là aujourd'hui à Agnan. Alors, cette soirée, je m'en souviens encore, et pourtant il y a 10 ans, et vous pouvez télécharger d'ailleurs la conférence qui avait eu lieu, je crois. Elle n'avait pas nécessairement attiré beaucoup d'Agnanais. Moi, j'en avais d'ailleurs été assez surpris, et je n'avais pas pu m'empêcher d'y voir une certaine ambivalence du rapport que les Agnanais pouvaient avoir vis-à-vis de cette tradition carcérale. Et pourtant, à cette époque, on savait déjà que qu'un certain nombre d'Agnanais avaient écrit des choses, avaient fait des autobiographies sur la vie carcérale, sur leur travail, au sein de l'ISES en particulier. Alors, cette attitude nous avait un peu questionnés, on s'était demandé pourquoi, en même temps, d'un côté, la soirée n'avait pas donné lieu à une grande fréquentation, et pourtant, de l'autre côté, l'intérêt réel existait pour cette période, pour cette institution, cette organisation, qui avait d'ailleurs mobilisé, sans doute, qui avait permis de travailler à un certain nombre d'Agnanais. Alors, 10 ans plus tard, on est revenu. Donc, la communauté de communes a décidé de confier à Jean-Pierre Pignès et à Christian Lamiel, qui sont à côté de moi, le soin de mettre à jour cette mémoire collective. Ces deux chercheurs ont travaillé à la restituer, cette mémoire, par des recherches en archives, par l'accès à ces fameuses autobiographies. J'ai pu comprendre qu'elles avaient été collectées. Et puis aussi par des enquêtes réalisées auprès des Agnanais qui ont vécu dans cette organisation carcérale. Alors, le résultat de leurs travaux, c'est pas moi qui vais le donner, c'est eux bien sûr, mais je dois vous dire qu'il n'a pas la forme d'une chronologie, on n'est pas dans l'historiographie traditionnelle, c'est plutôt une approche sur les représentations et les images qui sont nées de l'organisation carcérale. Et leur travail met plutôt en évidence un système continu de représentation articulé autour des trois fonctions inséparables de cet établissement qu'on a l'habitude d'identifier autour des trois verbes surveiller, punir et éduquer. Et pour cette raison, ces chercheurs parlent d'une anthropologie de l'histoire, ce qui signifie d'une certaine manière qu'ils prennent l'histoire comme un objet de réflexion, ils ne sont pas prisonniers de l'histoire en quelque sorte. Alors, Christian Lamiel et Jean-Pierre Pignès sont bien sûr avec nous ce soir et je vais vous les présenter en quelques mots. Alors, Christian Lamiel est ethnologue, chercheur au LAIC. Le LAIC, ça veut dire Laboratoire d'Anthropologie et d'Histoire de l'Institution de la Culture, et membre de l'Ethnopole GARAE. Donc, après une série d'études sur les représentations symboliques du monde naturel, elle a initié une histoire sur le nouvel usage des monuments, et en particulier sur la cité de Carcassonne, sur lequel vous pouvez trouver un certain nombre de travaux qu'elle a écrits. À Agnan, elle a analysé les figures de la construction de la mémoire de la colonie pénitentiaire. Par ailleurs, je crois savoir qu'elle travaille aujourd'hui sur les métamorphoses du paysage viticole. Jean-Pierre Pignès, qui est à côté, lui aussi est ethnologue, il est vice-président de l'ethnopôle Garae, qui relève de la Maison des Mémoires à Carcassonne, institution bien connue. Il est aussi, lui-même, chercheur associé au laïc. Donc, il a travaillé sur les formes de croyances populaires et sur la transmission orale de la littérature et du savoir dans la société traditionnelle. Et il participe lui aussi depuis plusieurs années à un travail de réflexion sur l'approche ethnologique des monuments historiques. Il a travaillé lui aussi sur la cité de Carcassonne, mais plus récemment un ouvrage sur les métamorphoses de la chartreuse de Villeneuve, les Avignons. Alors chacun d'eux va prendre la parole pour traiter un aspect différent de cette mémoire agnanaise en mosaïque, en abordant alors d'un côté, pour Jean-Pierre Pignès, je cite, la lecture ethnologique de la violence, et pour Christian Amiel, une mémoire en construction. Je vais leur laisser la parole, ils vont chacun parler à leur tour, dans l'ordre qu'ils veulent.
Merci. C'est moi qui commence sur la question de clarté dans l'exposé et de construction, puisque je vais évoquer peut-être des périodes plus anciennes que celles que Christian Amiel évoquera à son tour tout à l'heure. L'histoire de la colonie pénitentiaire d'Agnan et ses métamorphoses de 1885, date de la fondation à l'orée quasiment du XXIe siècle, est une longue histoire, trop complexe, vous le comprenez, pour être retracée dans le cadre de ce bistrot. Rappelons simplement qu'elle fut manufacture puis prison avant de devenir maison d'éducation surveillée. Aussi avons-nous choisi de nous attacher à deux points particuliers. Je proposerai donc pour ma part une lecture ethnologique à la violence. Christian évoquera ensuite les jeux de la mémoire. Aujourd'hui, le terme de colonie pénitentiaire évoque un passé sombre et douloureux. Celle d'Agnan accueillit à partir de 1885 des mineurs délinquants ou placés là au titre de la protection sociale. Les mauvais traitements infligés aux enfants ont été dénoncés très tôt, dès 1898, par exemple dans La Feuille, journal libertaire parisien de Zodaxa, et jusqu'en 1937, où les révoltes des colons d'Agnan suscitèrent l'émotion dans toute la presse nationale et régionale. Mais malgré ces dénonciations répétées qui ne concernaient pas qu'Agnan mais toutes les colonies pénitentiaires, la brutalité et les sévices continuèrent après 1898. Plusieurs rapports d'inspection eurent beau le déplorer, plusieurs appels à l'ordre émanant de l'administration centrale eurent beau ordonner au directeur de veiller à la bonne application des règlements qui interdisaient les actes de brutalité et d'inhumanité, la violence et les mauvais traitements persistèrent. Les archives sont sur ce sujet assez discrètes et on comprend que les directeurs d'établissement et l'autorité centrale aient veillé à ne pas laisser trop de traces de ce qu'ils considéraient comme des dérives ponctuelles. Les attestations les plus nombreuses que nous ayons proviennent donc de témoignages oraux recueillis et publiés par la presse de l'époque ou d'autobiographies rédigées par l'ancien colon. Ainsi, dans un texte célèbre, Zodaxa décrit dans son journal le quotidien d'un enfant mis au cachot à Agnan en 1898. Nu-pied, dans la cellule humide, l'enfant, les 8 premiers jours, a les bras liés derrière le dos. Des menottes lui serrent les poignets. 8 jours. Sans trêve, sans répit, sans qu'on le détache un moment. Sans sommeil, sans repos possible aux heures des nuits interminables. Et défense durant le jour de s'accoter le long du mur. Attention, le gardien passe. Gare à tes pieds, pauvre gosse, à tes pieds nus que les surveillants déchirent du talon de rabote. Le gardien t'a jeté un pain. Baisse-toi, déchiquette, mange un chien. Quand ce sera un jour de gamelle, tu la prendras avec les dents. Pour d'autres besoins, on t'aidera si tu es sage, si on a le temps. Ne pleure pas, n'appelle pas maman, c'est le gardien qui est venu. Au bout de la semaine, le jeu change. On note les cadenas et les menottes. Les bras raidis, ankylosés, ne retombent pas le long du corps. Alors, par petites saccades, le gardien les ramène à lui et pour 8 nouvelles journées, remet les menottes là. Le même auteur de la même livraison raconte l'histoire du petit colon Vaillambert mis lui aussi au cachot, sous la garde d'un surveillant qui le détestait et qui lui supprima la maigre nourriture à laquelle il avait droit. Pendant 3 semaines, le malheureux vécut au régime d'une mince tartine de pain que chaque jour lui lançait. Et les cellules voisines, ses petits camarades, l'entendirent de longues nuits sangloter en demandant à manger. Par pitié, j'ai faim. Le matin du 21e jour, on le trouva mort dans sa cellule, avec aux dents des débris de plâtre que l'enfant avait mâchonné. La mise au mitard, au cachot, avec privation de nourriture, est une des punitions usuelles relativement codifiée, puisqu'elle est écrite dans les règlements. Les coups en sont une autre, théoriquement interdite, mais très fréquente si l'on en croit les témoignages. Je vous en cite quelques-uns pour exemple. En 1905, un journaliste visite l'atelier de cordonnerie d'Agnan. À son entrée, un colon lève la tête. Le contremaître, furieux de le voir distrait, lui jette à la tête une forme en fonte. L'enfant, à demi assommé et saignant, a un geste de révolte, ce qui lui attire des coups supplémentaires de la part du surveillant. En 1915, le directeur écrit au préfet pour lui signaler qu'un pupille s'est plaint d'avoir été violemment frappé avec une corde par un surveillant. Il mentionne qu'il a fallu l'intervention de notre surveillant pour faire cesser les coups. En 1933, un autre cas, dans lequel le directeur écrit au ministre. Avant-hier après-midi, le sous-directeur, M. Lupin, constatait que le pupille S portait une assez large ecchymose au-dessous de l'œil droit. Interrogé, S prétendit avoir glissé dans le réfectoire. Le lendemain, craignant que le pupille n'ait été victime d'une brimade, M. Lupin l'interrogea plus longuement. S lui avoua enfin avoir été frappé d'un coup de poing au visage par le moniteur de service au réfectoire parce qu'il avait pris dans l'armoire un quignon de pain et l'avait dissimulé dans la poche de son pantalon. Ce maintien de pratique, condamné par une partie de la presse, mais aussi par l'autorité administrative, incite à l'interrogation. Pourquoi et comment une société a-t-elle pu, pendant plus de 50 ans, produire, accepter ou laisser se dérouler de telles pratiques? À Agnan, à Maitré, à Hesse, à Saint-Maurice, à Belle-Île, partout on trouve dans les archives, dans les journaux, dans des témoignages, les mêmes récits d'enfants battus, malmenés, jusqu'au péril de leur vie parfois. Comment comprendre cette violence? Sa récurrence montre qu'elle n'est ni un épiphénomène conjoncturel, ni l'appalage exceptionnel de quelques gardiens sadiques. Elle apparaît au contraire inhérente à l'institution, et cela nous interroge encore plus, car si l'on se réfère au souci qui a présidé à la création des colonies pénitentiaires, elle devrait en être absente. C'est en effet pour éviter aux mineurs les dangers que représentait leur emprisonnement dans les maisons d'arrêt ordinaires où ils étaient au contact de criminels endurcis que naquit le projet de les isoler dans des établissements particuliers. Sinon, contaminés par la corruption ambiante, il y avait de grandes chances qu'ils deviennent eux-mêmes des délinquants confirmés. Et il y avait aussi, et surtout pour la question qui nous interpelle ici, l'idée qu'il fallait les soustraire aux brutalités et sévices de tout ordre que leur faisaient subir les détenus plus âgés et plus forts qu'eux. S'inspirant d'observations faites à l'étranger, en Europe et aux États-Unis, plusieurs philanthropes proposèrent de transférer les mineurs dans des centres réservés. C'est ainsi qu'en 1839, à Maitré, dans l'Indre-et-Loire, la première colonie pénitentiaire agricole voit le jour, sous la houlette de Frédéric Auguste d'Aimé, convaincu par ailleurs des bienfaits de la vie et du travail au champ pour réinsérer dans la bonne voie les jeunes délinquants. Inspirée des théories rousseauistes, cette thèse mettait en avant le fait qu'ils y apprendraient un métier utile dans une France essentiellement agricole à l'époque, ce qui les tiendrait aussi à l'écart des mœurs corrompues qui étaient censées régner dans les grands ateliers et les manufactures. Lorsqu'en 1896, la colonie pénitentiaire d'Agnan ouvre ses portes, elle fait le choix original des activités artisanales et industrielles. Mais son principe demeure le même que celui affiché dans les colonies agricoles, la rééducation par le travail et la vie saine. Comment comprendre dès lors que toutes ces colonies, théoriquement vouées à être des lieux de métamorphose du mal vers le bien, soient très vite devenues des bagnes d'enfants? Zodaxa surnomme par exemple Anyan le Birimi des gosses. La liste des sévices qu'ils y subissaient serait longue, et je vous l'épargnerai parce que notre but n'est pas tant de nous indigner ou de compatir, mais d'essayer d'éclairer les raisons de cette violence récurrente. Comment a-t-on pu croire sauver de la corruption des enfants en les anéantissant de coups et de privations corporelles? Cet acharnement à exercer ces violences sur le corps évoque des pratiques pénales révolues depuis longtemps que Michel Foucault décrit au début de son ouvrage « Surveiller et punir ». En 1757, le criminel Damien, qui avait tenté d'assassiner Louis XV, est condamné à être longuement supplicié, puis écartelé sur la place de Grève à Paris. Son agonie fut interminable, tant le corps résistait à tous les coups que lui portaient les bourreaux. Après cette description, Michel Foucault donne le règlement rédigé en 1838 pour la maison des jeunes détenus à Paris. Un siècle sépare ce supplice et cet emploi du temps, définissant à chacun un certain style pénal. Les châtiments corporels ont officiellement disparu des décisions de justice, mais adoucis, plus feutrés et dépouillés de leur faste visible, dit Michel Foucault, ils perdureront longtemps encore. On peut donc se demander si les violences, brimades, affaiblissement par manque de nourriture, abrutissement par des travaux répétitifs, ne sont pas une forme édulcorée des anciens châtiments. Cela supposerait que l'idéologie qui les sous-tendait ait survécu quelque part dans l'inconscient collectif, et notamment dans celui des gardiens chargés de s'occuper des colons. Ce serait alors pour les débarrasser du mal qui les habite et les entraîne vers la perte qu'il faut battre et épuiser le corps des jeunes détenus. Nous rejoindrions là les buts avoués des colonies pénitentiaires, corriger les mauvais penchants des enfants pour les rééduquer et leur permettre de réintégrer et régénérer la vie publique. Mais cette hypothèse ne suffit pas à tout justifier. Les colonies pénitentiaires sont des lieux clos, voués à l'enfermement et à la surveillance, et c'est sans doute autour de ces deux notions qu'il faut chercher la raison des violences dont elles ont été partout et toujours le théâtre. Lorsqu'on feuillette leurs registres d'archives, on ne peut qu'être frappé par le nombre et la diversité des rapports administratifs émanant du directeur qui rappelle à l'ordre ou sanctionne les gardiens. On trouve également des rapports de l'autorité centrale invitant le directeur à être plus attentif aux règlements en vigueur. Tout se passe donc comme si la double fonction de surveillance et de punition, théoriquement appliquée aux jeunes détenus, rejaillissait sur l'ensemble des acteurs de l'institution. Ce glissement fait que les gardiens deviennent en quelque sorte un double virtuel des pupilles. Surveillants, ils sont à leur tour continuellement sous observation, et comme les colons, ils sont susceptibles à tout moment d'être punis, même si pour eux le terme est remplacé par sanctionné. En intégrant le monde de la colonie, le gardien entre, comme l'enfant, dans le monde de l'incertitude quant à son propre sort, car comme lui, il se trouve pris dans un écheveau d'obligations et de règles complexes qui ne tolèrent pas le moindre écart. Le dépouillement des rapports et de la correspondance du directeur avec ses autorités de tutelle nous ont amené à dresser une taxinomie des fautes susceptibles d'être reprochées aux gardiens. Leur diversité et leur échelonnement de la gravité montrent bien que leur vie quotidienne n'avait rien à envier à celle des jeunes qui se trouvaient sous leur coupe. Nous allons, à travers quelques exemples, exhumer du passé de la colonie d'Amiens, essayer de dresser un tableau de l'ambiance psychologique dans lequel ils baignaient. La première faute, c'est le retard au moment de la prise de fonction. Et l'on voit bien que ce qui importe, ce n'est pas qu'il ait entraîné une gêne dans le service, mais l'acte à lui-même, le retard même de quelques minutes, est une transgression insupportable et mérite une sanction. Le rapport à ce sujet est très bref en général, il se passe sans documentaire. Ce sont à peu près toujours les mêmes formules laconiques qui reviennent. J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'aime infliger une privation d'un jour de grande sortie au surveillant X pour être rentré après la peine. La sanction peut être plus grave lorsqu'il y a récidive, à la même jusqu'à une ponction de son salaire. J'avais fait jusqu'à présent la plus grande preuve de la plus grande bienveillance à l'égard de l'agent bon ennemi, mais je m'aperçois qu'il abuse de plus en plus de ma bonté et de mon indulgence. Il a commis depuis mai de nombreuses négligences et encouru les punitions suivantes. Mai 1913, retard à l'appel, réprimande. Juin, retard d'une demi-heure à l'appel, réprimande. Novembre, retard, réprimande. Décembre, retard à 7 minutes. 25, retard à 7 minutes. En conséquence de quoi, le directeur demande au préfet d'impliger à l'agent bon ennemi une retenue de 5 jours de traitement. D'autres fautes courantes et méritant toujours sanction sont le fait de fumer ou de s'asseoir pendant le service, de faire sa correspondance ou de lire le journal ou pire encore de s'endormir. Un exemple, étant de service de nuit au dortoir, cet agent qui s'est probablement assoupi a omis de faire à l'heure prescrite une ronde à l'intérieur de l'établissement. Un autre reproche fréquent est le laxisme qui effrite la barrière de l'autorité que les gardiens doivent établir entre eux et les pupilles. J'ai infligé, dit le directeur, une privation de 3 jours de grande sortie au surveillant Paois qui a laissé se grouper dans un dortoir, les pupilles confiées à sa surveillance, s'est assis au milieu d'eux, écoutant les histoires qu'il leur plaisait de lui raconter, et ce, au lieu de faire exécuter le travail dont ils étaient chargés. Les gardiens, comme les colombes, peuvent faire aussi preuve de révolte lorsque le règlement leur paraît trop lourd et trop arbitraire. Ils seront alors, toujours comme les colons, sanctionnés pour insubordination. J'ai infligé une punition de privation de 2 jours de grande sortie au surveillant D, qui, en plein poste, en présence de plusieurs de ses collègues, s'est livré à des critiques déplacées sur la façon dont le service était commandé par les agents gradés. L'insubordination peut aller jusqu'à l'insolence, ce qui, une fois encore, n'est pas sans rappeler celle des colons qui sont aussi fréquemment punis pour cela. Le surveillant Hernandez, trouvé assis dans le chemin de ronde où la surveillance ne peut s'exercer que si l'agent est en charge, se déplace constamment, a répondu au premier surveillant qui lui demandait s'il était autorisé à s'asseoir. Autorisé ou non, je m'assois quand même. Surveillance, délation, sanction, insubordination. Le quotidien des gardiens est jalonné des mêmes avatars que les colons qui doivent surveiller, dénoncer, d'un sanctionné dont ils doivent briser toutes les tentatives de révolte. Pactiser avec eux, leur accorder la brève liberté d'un temps de bavardage, est une faute dont il leur faudra rendre compte. Rappelons qu'à l'époque de la colonie, le métier de gardien est, à part pour les militaires de carrière qui l'occupent à la retraite, un emploi précaire et chichement rétribué. La plupart des gardiens sont souvent dans des situations sociales difficiles. Les diminutions de salaire, voire le renvoi qu'ils encourent pour le non-respect des règles, ne sont pas pour eux des choses à prendre à léger. Ajoutons à cela des conditions de travail éprouvantes, tant dans la nature même de leurs tâches que dans le temps et l'organisation du service. Ils doivent 55 heures hebdomadaires au minimum et se sont susceptibles de rappeler à tout moment, de nuit comme de jour, au moindre incident. On comprend dès lors que, sous l'œil inquisitorial du directeur Big Brother, en but aux délations des confrères, aux critiques de la presse, aux agressions verbales et physiques des colons, ils ne soient pas toujours des modèles de calme et de sage sérénité. C'est d'ailleurs ce que signalent plusieurs rapports administratifs faisant état de rixe entre le personnel de la colonie d'Anian. En 1912, après avoir reçu une note du directeur, le préfet écrit au ministre de la Justice pour lui demander de prendre des sanctions lourdes, blâme avec inscription au dossier pour l'un et menace de renvoi pour l'autre, à l'encontre de 2 agents qui, selon son expression, ont échangé des coups. En 1916, nous avons trouvé plusieurs courriers entre le directeur, préfet et garde des Sceaux à propos d'une bagarre entre les surveillants Duranton et Muselini. D'autres faits semblables sont fréquemment évoqués dans les dossiers administratifs individuels rédigé chaque année par le directeur pour accompagner le titulaire tout au long de sa carrière. Vu la lourdeur des sanctions, les troubles provoqués par les convocations pour audition chez le directeur, voire chez le préfet, les surveillants ont bien sûr intérêt à éviter de passer leur nerf sur leur collègues, car il semble bien que ce soit parfois de cela qu'il s'agisse, de passer les nerfs lorsqu'ils malmènent plus ou moins violemment les pupilles. Citons un cas où l'exaspération l'a manifestement emporté sur la clarté du jugement. Les faits se passent en 1930. Dans la nuit du 17 au 18 novembre, M. Menot était de service au deuxième dortoir avec le moniteur Delbos. Après le coucher, plusieurs pupilles bavardaient. M. Menot voulut les faire taire, mais il s'y prit maladroitement et cria si fort qu'à l'autre extrémité du dortoir, une voix s'éleva s'écriant « Ta gueule, François !» Perdant tout son sang-froid, cet agent se précipitant du côté où le cri était parti, ouvrit toute une division du dortoir et, entrant au hasard dans une cellule, il frappa à plusieurs reprises le pupille C, qui était couché et qui n'avait rien dit. L'intervention de son collègue réussit à le calmer un peu, tandis que les pupilles du dortoir, réveillées, poussaient des huées à son adresse. D'autres fois, la violence ressemble davantage à un défoulement collectif.
Face à cette transe meurtrière, ce sont les gardiens et les gardes mobiles qui, malgré les turpitudes et les brutalités qu'on leur prête habituellement, apparaissent comme des représentants de la civilisation, puisque ce jour-là, le 28 août 1937, les forces de l'ordre s'opposèrent aux gens du pays pour protéger de leur vindicte les jeunes détenus. Alors, mon propos n'est pas ici de démêler la part de vérité et d'exagération du récit de Jean-Guy Le Danneau, mais de mettre l'accent sur l'opposition fondamentale de l'inconscient collectif de chaque groupe, leur faisant voir l'autre comme un réservoir de criminels potentiels. À l'image de la menace que la colonie a pu symboliser pour le village, répond celle que ses habitants peuvent représenter pour les colons. Ceci attribue aux Agnanais une sauvagerie primitive. Les Agnanais les accusent d'être dépourvus d'éducation et de sens moral, se reprochant donc réciproquement un similaire manque de civilisation. Dans les deux cas, c'est l'autre de derrière les murs qui, pour chaque groupe, incarne la peur, porte la marque d'une stigmatisante étrangeté. Alors, en 1945, avec l'ordonnance sur l'éducation surveillée, Agnan change de statut. C'est la fin d'un monde et le début d'une nouvelle histoire marquée par une lente ouverture des murs et des mentalités. L'ancienne abbaye n'abrite plus un lieu pénitentiaire, mais un espace d'éducation. Les gardiens laissent la place aux éducateurs. L'image des jeunes dans le village évolue aussi, passant de celle de délinquants à celle d'adolescents en difficulté. Le changement n'est pas immédiat. Au rythme des directives nationales, il y aura des avancées, des reculs, des tâtonnements, des discussions, des tergiversations. Ainsi, après 1945, l'État continue à y envoyer des jeunes condamnés à des peines de prison et qui sont donc enfermés dans un quartier carcéral à part, à l'écart des autres pensionnaires. Mais, bon an, mal an, Agnan suit l'évolution des temps. Les murs sont toujours là, mais des brèches sont ouvertes, permettant quelques rencontres entre villageois et élèves. Dans les années 1950, les habitants du village étaient par exemple conviés aux représentations théâtrales donnée par la folle équipe, troupe dans laquelle jouaient des membres du personnel et quelques élèves soigneusement choisis. Deux fois par an, un bal était organisé auquel les Agnanais étaient aussi invités. Il y avait aussi des journées portes ouvertes. En 1956, le public put y admirer une grande maquette en carton réalisée dans les ateliers sous la direction des professeurs techniques. Celle-ci fut ensuite exposée sur un char lors de la cavalcade d'Agnan, à laquelle participaient chaque année les élèves. Plus tard, la salle aménagée en théâtre fut régulièrement prêtée au village, je pense que c'est cette salle, pour y accueillir divers spectacles, pièces ou concerts. Et aujourd'hui, beaucoup d'Agnanais se souviennent avec émotion des belles soirées qu'ils y ont passées. À une époque où le village n'en avait pas encore, la piscine du centre fut également certains jours et à certaines heures ouverte aux habitants. Le temps n'est donc plus à la seule stigmatisation des pensionnaires d'un côté, des habitants de l'autre. Au fil des ans, Agnane va oublier, ou tenter d'oublier, le passé noir du bagne. Du moins, va le cantonner dans le domaine de l'histoire savante. Aujourd'hui, en effet, la mémoire vive des Agnanais ne semble pas remonter au-delà de l'époque de l'éducation surveillée. Ce qui est normal, puisqu'il reste très peu de témoins directs, mais on aurait pu s'attendre à ce qu'ils aient des souvenirs transmis par la génération précédente. Or, il n'en est rien, ou presque rien. L'histoire de la colonie ne fait pas partie du domaine de la tradition orale. Ce que nos informateurs en connaissent provient de lectures ou a été glané sur Internet. Lors de notre entrevue avec M. P., un des doyens de la communauté, son fils a bien insisté sur le caractère périssable de cette mémoire qui s'éteindrait avec son père et sur l'intérêt qu'il y avait à la recueillir. Pas tellement du point de vue de l'époque pénitentiaire qu'il n'avait que peu connue, puisqu'il était rentré comme gardien en 1943, mais parce qu'il pouvait parler du changement. Il m'a dit, on a la chance qu'il ait vécu le basculement. Et voilà, voici comment il m'a raconté ce moment de basculement des temps entre la fin du vieux monde et le commencement d'une nouvelle ère. En 43, je suis rentré comme gardien. Les gosses étaient gardés comme des taulards. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'instructeur, il n'y avait rien. Ils étaient enfermés, c'était des taulards. Toute la journée, ils étaient enfermés. C'est après, en 49, que ça a changé. À ce moment-là, il y a eu l'éducation surveillée et on a fait venir des instructeurs. Il y a eu 7 métiers pour faire 7 ateliers. Et les gosses, on les mettait une semaine dans chaque atelier pour savoir ce qu'ils pourraient faire. Le matin, ils allaient à l'école et l'après-midi, ils allaient à l'atelier. Et nous, on a été nommés éducateurs. Et là, les gosses, on les voyait, ils venaient avec nous. On a formé des groupes. On mettait une 20aine d'élèves dans chaque groupe. On était 6 groupes, on les avait avec nous. Et ça, ça a changé complètement la vie. Surtout pour les gosses. Et même après, ils avaient le droit de sortir le dimanche. S'ils se tenaient bien, on leur donnait des notes et le dimanche, ils pouvaient sortir. La mémoire collective a donc choisi de faire de ce moment de renversement le seuil symbolique où commence la genèse de la communauté actuelle. Même lorsqu'il rapporte les clivages qui ont pu exister entre classe d'âge, statut professionnel et sensibilité personnelle, c'est toujours autour de cette figure partagée que s'organisent tous les discours. Les éducateurs reprochent aux habitants du village d'avoir mis du temps à évoluer. La mentalité des gens, lorsque le système a changé, c'était de dire « ça sert à rien, voyous ils sont, voyous ils resteront ». Certains déplorent la lenteur des progrès et les tergiversations de l'administration qui a supprimé le mitard, mais qui l'a remplacé par une chambre de réflexion. Tout le monde se souvient avec plus ou moins d'agacement des troubles et des petits larcins que pouvaient commettre les élèves dans le village. Mais tout le monde aussi s'accorde sur le rôle positif de l'apprentissage d'un métier qui permettait aux gamins de s'en sortir. L'image qui prime est celle de l'éducation, avec pour thème récurrent la description des ateliers et la qualité de l'enseignement, les diplômes obtenus par les élèves, alors il y a des CAP, des brevets professionnels et même des baccalauréats. La réussite professionnelle et sociale de certains qui reviennent voir leur mentor ou leur envoient des lettres de remerciement, la complète intégration dans la vie locale d'élèves qui se sont mariés sur place. Les sujets qui fâchent sont aussi évoqués, comme la persistance tardive d'anciennes mauvaises pratiques héritées de l'époque pénitentiaire, la mise au cachot et les corrections corporelles. Car la nouvelle histoire a aussi sa part noire, que chacun commente à sa façon, tente d'expliquer, de justifier ou de nier. Parmi les nouveaux habitants, ceux qui sont arrivés dans le village après la fermeture de l'ISES, beaucoup ignorent souvent à peu près tout de ce passé. Certains ont cependant entendu parler de l'existence d'un bagne pour enfants. Et leur connaissance de l'histoire pénitentiaire et éducative du lieu s'arrête à cette seule figure négative, née dans la mouvance des campagnes de dénonciation. La communication entre eux et les autochtones donne parfois lieu à des malentendus, les premiers ayant en tête les sévices du temps de la colonie et suspectant les Aniamés d'en avoir été les complices complaisants, les seconds attachés à défendre les valeurs positives de l'époque de l'éducation surveillée. Ce décalage de dates et d'objets nourrit des deux côtés un réciproque sentiment d'irréductibles différences et de mutuelles incompréhensions. Deux types de mémoires collectives se confrontent ici, l'une exogène et d'origine savante, l'autre autochtone et directement élaborée à partir du vécu de chacun. Y aura-t-il un jour rencontre et fusion entre les deux ? Ou continueront-elles longtemps encore à s'opposer, confortant la distinction entre les Aniamés d'origine et les nouveaux venus? La réponse, pour le moment, est en suspens. Maintenant, je voudrais parler un peu plus de l'imaginaire, disons. Donc, nous l'avons vu, les souvenirs se croisent et s'entrecroisent, dialoguent, s'opposent, se complètent, s'ignore, mêle expérience personnelle et documentation historique. Mais comme dans toutes les mémoires, l'imaginaire joue aussi un rôle. Plus d'une fois, au cours de nos entretiens, nous avons recueilli des propos dont l'exactitude historique était manifestement douteuse. À y regarder de plus près, il nous est apparu que ce qui, du point de vue de la matérialité des faits, pouvait être qualifié d'erreur, d'extrapolation ou d'exagération, renvoyé cependant dans l'ordre du symbolique à une vérité signifiante. Pour notre premier exemple, revenons sur l'amnésie partielle qui affecte M. P. lorsqu'il se remémore les débuts de sa carrière en 1943. L'établissement avait déjà, depuis 1927, le titre de maison d'éducation surveillée. Mais ce changement de nom de la colonie pénitentiaire n'avait entraîné aucune transformation vraiment notable. Les gosses, nous dit-il, étaient gardés comme des taulards. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'instructeur, il n'y avait rien, ils étaient enfermés, c'était des taulards. À mon grand étonnement, il ne se souvient pas des ateliers, dans lesquels les pupilles fabriquaient pourtant un nombre considérable d'objets. Il ne se souvient pas davantage du réfectoire, pourtant photographié dans les années 1930 par Henri Manuel. Cette mémoire qui flanche peut être mise sur le compte de l'âge et des éloignements dans le passé. Mais la sélection et les oublis qu'elle opère n'en sont pas moins signifiants. Souvenons-nous qu'après 1945, la maison d'éducation surveillée d'Aniane a aussi servi pendant quelques années de lieux de détention pour des mineurs condamnés à des peines de prison. Ceux-ci étaient enfermés, je vous l'ai dit, dans un quartier carcéral à part. Il semble bien que ce soit eux, les taulards, dont parle M. P. Sa mémoire s'organise autour d'une opposition radicale entre les temps d'avant et d'après l'ordonnance. Le premier est l'emblème de la prison pure et dure. Les gosses, c'était des taulards, dit-il. Oubliant, entre guillemets, les pensionnaires de la colonie qui travaillaient dans les ateliers, suivaient quelques cours d'enseignement général et mangeaient au réfectoire. Le second temps, celui de l'ouverture et du changement, là, ça a changé complètement la vie des gosses, dit-il, ça a changé notre vie. Il oublie, là, les détenus qui continuaient quand même à purger leur peine dans le quartier carcéral. Pour lui, l'important est la transformation inaugurée dans les lieux et dans les esprits par l'ordonnance de 45. Et c'est ça que sa mémoire a retenu de cette période, agençant ses souvenirs selon une logique et un ordre qui lui sont propres, nous donnant à voir du même coup la différence qui peut exister entre mémoire et histoire, l'une attachée à la signification sensible du réel, l'autre à son déchiffrement objectif. Dans notre second exemple, il ne s'agit pas d'un témoignage direct, mais une mémoire transmise par un ancien détenu à sa fille et à sa petite-fille. L'enfance de Emma est marquée par le malheur et la souffrance. Il perd sa mère à l'âge de 4 ans, est plus ou moins élevé par son père, guitariste de rue quelque peu porté sur la bouteille. Très tôt, l'enfant est livré à lui-même, couche dehors et subsiste comme il peut, volant ici et là de quoi manger et se vêtir. Avec des camarades d'infortune, il participe aux compétitions qu'organisent pour se distraire les riches touristes américains et anglais qui jettent des pièces dans le port de Nice pour que les enfants aillent les repêcher. En 1927, à l'âge de 14 ans, il est interné à Amiens, où il restera jusqu'en 1930, date à laquelle, grâce à l'entremise d'un gardien bienveillant, il est placé comme apprenti maréchal ferrant chez un artisan des environs, ce qui va lui permettre d'entamer une nouvelle vie. Devenu père puis grand-père, il comble ses enfants et ses petits-enfants de tout ce qu'il y a manqué, leur fabriquant de nombreux et merveilleux jouets. Papy était doué de ses doigts, se souvient sa petite fille. Il avait dû apprendre des tas de choses dans tous ses ateliers. Ça, au moins, ça serait le point positif de l'endroit. Le point positif, parce que les côtés négatifs ne manquent pas. Il n'en parlait pas trop, parce que c'était pénible pour lui, commenta sa fille. On pourrait avoir davantage d'éléments s'il avait parlé, mais on sentait que c'était une période noire. Quand il en parlait, il avait les larmes aux yeux. À un moment même, il a essayé, peut-être pour répondre aux questions de sa petite fille, il avait commencé à écrire l'histoire de sa vie, mais il a arrêté et déchiré les pages. Aujourd'hui, les deux femmes se souviennent surtout de ses réticences à évoquer ce passé, de sa peine devant les films qui le lui rappelaient, de ses fréquents accès de tristesse et de mal-être. Il n'y est resté que 3 ans, mais ça l'a marqué pour toute la vie. Quelques anecdotes scabreuses émergent à propos de mégots jetés en pâture par les gardiens pour que les jeunes se bagarrent en essayant de les récupérer. Elle garde aussi en mémoire des histoires de violence, de bagarres entre détenus, de combats de boxe organisés par les gardiens, des coups de fouet qui pleuvaient pour un rien. Mais ce tableau noir est adouci par l'image d'un gardien compatissant. Il avait pris mon père à la bonne, il était très gentil avec lui, il lui donnait des cigarettes en cachette. Un mot semble pouvoir résumer cette mémoire douloureuse dont elles n'ont pu recueillir que quelques brides. Un mot qui, dans la bouche de sa fille, revient avec la force d'un leitmotiv. J'ai toujours entendu papa dire « c'était le bagne ». Ce n'était pas une prison ou un pénitencier, c'était un bagne, avec des chaînes aux pieds. La camisole en toile de jute, très très épaisse, avec des portes qui se fermaient par un levier central qui fermait toutes les portes. Il le disait, c'était vraiment le bagne, la galère. Sur Internet, ajoute sa petite fille, j'ai trouvé des histoires de cages suspendues. Je l'ai lu dans les témoignages. Il parle de cages suspendues où on mettait ceux qui commettaient vraiment des bêtises. Ils se retrouvaient au plafond plusieurs jours. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais si c'est vrai, ça devait être terrible. Cette description relève d'une contamination imaginale entre ce qu'on appelait les cages à poules dans les colonies pénitentiaires et les cages dans lesquelles Louis XI enfermait ses prisonniers. Mais cette évocation éveille chez la mère des souvenirs enfouis. Je vous la cite. Ils montaient tous en rang, et puis on les faisait aligner chacun devant leur cellule. Ils étaient enchaînés les uns aux autres. Ils avaient les chaînes aux pieds. Le gardien passait, il défaisait les chaînes, il reculait d'un pas. Il y avait un autre gardien qui était dans la salle, là-bas, qui manœuvrait le levier, et raou, toutes les portes se fermaient. Et c'était pas des portes, c'était des grilles. Donc, il pouvait voir le voisin en face. Et il s'envoyait des mégots, il s'envoyait des cigarettes. Quand le gardien passait au milieu, qu'il faisait exprès d'ailleurs de jeter le mégot, tous étaient là avec les bras dehors. Et les autres, ils arrivaient avec des gourdins. Voyez, ça me revient. C'est la vérité, ça. Je me souviens quand il l'a dit. On montait en rang et puis on était bien alignés. Ils se mettaient chacun devant sa cellule. Il y avait un gardien qui défaisait les chaînes, les grosses chaînes. Ça tombait par terre. Ça faisait comme un ruisseau qui tombait dans le truc, là, dans le caniveau. Agnane n'a jamais été un bagne au sens juridique du terme. Mais le mot a souvent été utilisé pour désigner métaphoriquement les colonies pénitentiaires pour mineurs, notamment lors de leur dénonciation par la presse à partir des années 1920. Mais, et c'est là que les choses se brouillent, le mot est tellement évocateur que sa seule énonciation fait naître des représentations dont il est difficile de savoir s'il s'agit d'images mémorielles personnelles ou de stéréotypes. Aujourd'hui, rien ne permet de dire que Emma n'a pas réellement raconté à sa fille qu'il était enchaîné. Est-ce lui ou elle, ou tous les deux, qui ont été contaminés par les clichés inscrits dans l'inconscient collectif? Il est impossible de le savoir, mais ce qui est sûr, c'est que la scène du coucher, telle que l'a décrit sa fille, traduit une vérité essentielle ressentie par le petit prisonnier, traumatisé par la violence continuelle qui régnait dans le lieu. La nuit, la protection des grilles qui isolaient chacun dans une cellule individuelle, marquait pour lui et pour tous les colons les plus faibles un bref répit, avant que le matin venu, les règlements de compte ne recommencent de plus belle. Dans sa mémoire, la chute du vrai rideau de fer et celle des chaînes symboliques, décrite avec l'ordonnancement d'un rituel bien réglé, se confondent dans une même image suggestive de bruit de ferraille annonçant le début de la trêve nocturne. Les colons sont alignés devant leurs cellules, un gardien défait les entraves qu'ils ont aux pieds, les colons reculent d'un pas, un autre gardien manœuvre le levier de la grille, les fers tombent dans un grand fracas. Ce souvenir, recomposé, se présente comme une véritable allégorie de la sinistre condition du petit colon malheureux qu'il fut. Même s'il est inexact sur le plan de la stricte reconstitution matérielle, il rend compte de la vérité sensible du réel. Il n'est pas une photographie objective, mais l'aboutissement d'un processus mémoriel analytique où le vécu et l'imaginaire, le tangible et le symbolique se mêlent et s'entrecroisent. Le troisième exemple que j'ai choisi porte plus particulièrement sur un phénomène d'appropriation par la mémoire individuelle d'éléments puisés dans le fond commun. En 1925, après une enquête conduite dans plusieurs colonies pénitentiaires, le journaliste Louis Roubaud publie un livre, Les enfants de Caïn, dans lequel il raconte trois meurtres qui auraient été commis à Agnane quelque temps avant son passage et dont on lui a parlé pendant qu'il visitait les ateliers. Moi, naturellement, dit-il, je n'ai trouvé sur les dalles que limaille, copeaux, bouts de cuir ou d'étoffe. D'autres y ont vu du sang, et ce n'est pas très ancien. Alors, je vous résume les faits tels qu'il les décrit, en gardant des détails qui, nous le verrons par la suite, ont de l'importance. Le premier meurtre se déroule à la forge. Ramalier, un petit gars costaud, avait droit au pinard du jeudi et aux frites grâce à son galon de travail. Un jour, le contremaître, mécontent de sa paresse, lui retire son galon et par là même son quart de vin et ses frites. Trois jours plus tard, alors que le contremaître est en train de morigéner à propos d'un travail, attention, pas comme ça, Ramalier lui plonge dans les entrailles une tige de fer rougit au feu. Le second meurtre a pour scène la cordonnerie. Je vous cite. Le pupille Merlin n'était pas mauvais ouvrier. Son travail n'était pas parfait et il méritait quelques observations. Tout le monde n'a pas un caractère propre à se laisser gronder. Un jour, avec un tranchant, par derrière, Merlin abattit son contremaître. Le troisième meurtre n'a pas lieu dans la chaudronnerie, c'est seulement l'arme qui en provient. Et ce n'est plus un contremaître qui est tué, mais un autre pupille, ennemi du meurtrier. C'est l'heure de la sieste au dortoir. Je cite, Julien s'échappe, court à l'atelier chercher une scie à couper le zinc, retourne au dortoir, ouvre doucement la cabine de son ennemi et avec l'horrible instrument lui déchire le ventre. Les faits se seraient donc passés avant 1925. Or, au cours de nos entretiens, plusieurs personnes nous ont raconté un crime commis par un jeune à une période beaucoup plus récente, assez indéterminée à vrai dire. Nous allons voir qu'il y a plusieurs traits communs entre les récits du journaliste et ceux rapportés par la mémoire orale annuelle. Les premiers font référence à trois ateliers, la forge, la cordonnerie, la chaudronnerie. Les seconds se déroulent dans la seule cordonnerie, mais comprennent des motifs narratifs similaires à ceux des crimes précédents. Chacun de nos informateurs nous a en fait raconté une histoire légèrement différente, structurée comme dans un corpus de contes autour d'un thème commun. J'en prends quelques-unes pour exemple. Il y a eu un crime à Amiens. Un jeune s'est fait étrangler, un cordonnier. Il travaillait à la cordonnerie depuis longtemps et il avait la confiance des instructeurs. Et il y avait des tensions. Il y en a un qui a été jaloux et avec une lame ou une scie, parce qu'ils avaient des outils, avec un tranché qu'on coupe le cuir, dans l'atelier. Une autre histoire. À l'époque, il y avait des sections d'honneur. Il y en avait un qui était très 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 bien. Il avait été nommé comme les capots un petit peu. Et ce type, couac, il a été égorgé à l'atelier de cordonnerie. Il a voulu faire une remontrance à un, et l'autre, c'est une bestiasse. Il lui a tranché le cou. Un troisième, un ancien élève est revenu. Il s'appelait Meknes. Je peux vous le dire parce qu'il est mort. Il visite les ateliers. Il avait fait de la reliure, ce jeune. Et dans les ateliers, il y a un jeune, et Meknes se penche pour lui dire « Ah non, tu vois, là, tu devrais faire. » Il se retourne, et avec la laine, il y a tranché la gorge. La remontrance, le conseil qui déclenche l'acte, le bon élève avec le galon de travail ou la section d'honneur, la force physique du petit gars costaud ou de la bestiasse, on voit que l'on retrouve plusieurs des motifs présents dans les récits de Louis Roubaud. Certains ont disparu. Il n'y a plus que la cordonnerie comme lieu du crime. Il n'y a plus de contremaître victime, mais seulement un autre élève, qui est quand même un peu un capot ou un donneur de leçons. Il n'y a plus de fer rougi au feu, plus de scie à couper le zinc, ce qui est normal puisque le crime a lieu à la cordonnerie, mais une scie est cependant évoquée dans un des récits contemporains. Les blessures au ventre ont disparu, en même temps que les instruments qui les ont provoqués. Il n'y a plus que le cou ou la gorge qui soit tranché, comme dans le premier meurtre de la cordonnerie. Un jour, avec un tranchant, par derrière, Merlin abattit son contremaître. Alors, que conclure de tout ceci? Certainement que tous ces récits ne sont que des variantes qui racontent la même triste et navrante histoire, une sorte de conte populaire moderne, que chaque narrateur s'applique à rendre plus sensible à l'aide de détails circonstanciés. Ils sont une figure allégorique des violences engendrées par l'univers clos des bagnes d'enfants. Aujourd'hui, la page est tournée. Le temps des colonies pénitentiaires est fini. Il en reste dans la mémoire collective quelques dernières traces, dont ces récits qui appartiennent désormais à la légende noire de l'histoire de l'abbaye d'Amiens. Ouais. Thank you.